L'écologie est un sujet de plus en plus abordé dans les films, les séries, les fictions en général, bref, devant les caméras. Mais désormais, elle l'est également derrière, autrement dit, lors des tournages qui se mettent au vert. On parle d'éco-tournage pour les producteurs. Le bilan carbone devient un enjeu aussi important que le bilan financier. Et ce, d'autant plus que certaines aides financières pourraient bientôt être conditionnées à des pratiques éco-responsables. Bonjour Julien Tricard.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes producteur, patron de Lucien Productions et créateur du Media Club Green, une association qui milite pour des tournages éco-responsables. Avec vous, avec nous, Mathieu Delahousse, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le président de Sequoia, ça s'écrit S-E-C-O-Y-A, une entreprise qui aide et qui accompagne les sociétés de production à adopter des comportements écologiques. Eh bien justement, on commence par vous Mathieu Delahousse. Qu'appelez-vous, qu'est-ce qu'un éco-tournage ?
Un éco-tournage pour une production, c'est replacer l'humain et replacer l'activité de production dans une réalité socio-climatique actuelle. C'est relocaliser ses productions et c'est prendre en considération une réalité économique importante aujourd'hui.
C'est-à-dire relocaliser les productions ?
C'est-à-dire prendre en considération que relocaliser sur le territoire d'un côté, mais au sein du territoire aussi, favoriser une économie locale, une économie sociale, circulaire et la réalité de l'endroit dans lequel on se trouve lorsqu'on fait un film publicitaire, une série ou un long métrage.
Ouais, mais comme quasiment toutes les sociétés de production sont autour de Paris, ça veut dire qu'on peut plus tourner ailleurs qu'à Paris ?
Ben si, justement, et c'est là que c'est intéressant, ça veut dire que lorsque l'on va tourner en région, lorsque l'on va tourner même à l'étranger, parce que le but n'est pas d'arrêter de tourner à l'étranger.
Ah, ça allait être la question suivante, justement.
Non, le but, c'est justement de continuer à fabriquer du rêve et de fabriquer de façon durable et responsable. Et donc, de prendre en considération, Julien, en face de moi, le sait parce qu'il a produit un documentaire dans différents endroits du monde et sans déplacer aucune personne, en faisant appel à des équipes locales et du matériel local. Et c'est bien là l'engagement éco-responsable.
Alors justement, Julien Tricard, concrètement, quelles sont les différences entre un tournage qui serait écologique et un tournage qui ne le serait pas ?
La vraie différence entre un tournage écologique et un tournage qui ne l'est pas, c'est qu'on va se poser la question en amont et on va se dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire le tournage le plus responsable possible avant de commencer à tourner. Il y a plein de gens qui disent oui, on est écolo parce qu'ils ont mis trois gourdes et deux machines à café à grains sur leur tournage, mais en réalité aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et là, je vous donne un exemple concret. Là, on vient de tourner un documentaire. On est allé au sommet du Mont Blanc. On a suivi une équipe scientifique qui est allée mesurer pour la première fois dans l'histoire le taux de pollution au microplastique dans les hautes montagnes, en haute altitude. Et on n'a pas envoyé un seul hélicoptère. Notre caméraman est monté, c'est un alpiniste et un caméraman. L'équipe de scientifiques aussi, d'ailleurs. Et on a récupéré des images aériennes qui ont été tournées avec un procédé qui consomme 20 fois moins d'essence qu'un hélicoptère.
Un drone.
Pas un drone, parce que c'est des images qu'on peut pas prendre en drone.
Alors allez-y, c'est quoi le procédé ? Parce que c'est intéressant.
En fait, c'est très malin. C'est des types qui s'appellent...
C'est une société qui s'appelle No Gravity. Ce sont des prises de vue en ULM.
Voilà. Ils ont mis une caméra à l'arrière d'un ULM et se sont rendu compte qu'ils pouvaient faire exactement la même qualité d'image qu'un hélicoptère, mais en consommant 20 fois moins d'essence.
Mathieu Delahousse a été régisseur pendant 15 ans sur des tournages de séries de cinéma, c'est bien ça ?
Exactement.
Sur quelle production vous avez été ?
J'ai travaillé pour EuropaCorp, j'ai travaillé pour Bonne Pioche Cinéma, j'ai travaillé pour plein de productions, j'ai travaillé pour des productions de publicité aussi, j'ai travaillé pour des séries comme chef.
Avec Cornillac ?
Avec Lovis Cornillac, tout à fait.
Qu'est-ce que ces expériences vous ont fait comprendre ?
Alors d'abord qu'on faisait un métier merveilleux, parce que je me suis rendu compte déjà que j'ai fait ce métier avec passion, et ensuite quand on arrivait dans des endroits, quels qu'ils soient, les gens nous voyaient, nous accueillaient avec beaucoup de plaisir, parce qu'on vend du rêve, on fabrique du rêve, et ça c'est merveilleux. Et c'est aussi ce pour quoi on voulait se battre, c'est-à-dire qu'il est extrêmement important pour nous que cette industrie ne disparaisse pas.
Mais est-ce que vous êtes dit, quand vous arrivez quelque part, on est en train de tout dégueulasser ?
Alors je me le suis jamais dit à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'avais pas cette conscience-là, et à l'époque, on m'avait appris à faire ce métier sans cette conscience. Et aujourd'hui, avec le recul, je revois un certain nombre de choses que j'ai faites. J'ai participé à une publicité en haut d'un glacier où on a fait monter 300 arbres par hélicoptère pour pouvoir reconstituer le décor de la publicité. Aujourd'hui, quand je repense à ça, et ça date d'il y a plus de 15 ans, je comprends même pas comment on pourrait le faire aujourd'hui avec la conscience qu'on a. À l'époque, la question ne se posait pas.
J'ai vu une publicité, je sais pas pourquoi, je raconte un souvenir personnel, où le champ n'était pas assez vert pour le réalisateur. Ils sont allés acheter des pots de peinture verte, ils ont entièrement peint le champ en vert. Et ça choquait absolument personne, ce qui serait absolument impensable aujourd'hui. Ça change la manière de tourner ces considérations-là, Julien Tricard ?
Alors ça change la manière de tourner et c'est vraiment le cœur du problème. C'est-à-dire que moi, en tant que producteur, non pas en tant que militant, écologiste ou je sais pas quoi, en tant que producteur, je suis obligé de me poser la question, est-ce que je vais quand même gagner de l'argent en faisant mon film ?
Ah oui.
Voilà, donc il y a des économies, notamment des économies d'échelle et ça...
Je vous interromps tout de suite, on va prendre le premier exemple. L'ULM, ça coûte moins cher qu'un hélico ?
L'ULM, ça coûte moins cher qu'un hélico.
Donc vous avez fait des économies en plus d'avoir un bilan positif. Qu'est-ce qui coûte plus cher quand on veut être éco-responsable ?
Ça va être d'aller faire ses courses, d'essayer de trouver tous les producteurs bio, locaux, d'aller s'approvisionner, de rapatrier un certain nombre de prestataires qui vont pas forcément être les moins chers, parce qu'on est quand même dans un monde où on le sait, si on va faire ses courses chez le gros supermarché ou le gros hypermarché du coin, ça reste moins cher.
Là, vous parlez pas de ce qu'on voit à l'image, mais vous parlez de la cantine pour les techniciens.
Oui, absolument. À l'image. Le but, de toute façon, quand on fait un éco-tournage, c'est d'obtenir le même résultat. On va jamais sacrifier la qualité. Jamais.
Ouais, même question. Est-ce que, quand on veut faire un tournage en France, c'est pas toujours évident, mais quand il est à l'étranger, ça l'est encore moins, à commencer par le voyage. Comment on peut respecter ses engagements écologiques quand on doit tourner à l'étranger? Parfois, on n'a pas le choix. Si on va faire une histoire d'un petit garçon, et son amitié avec un éléphant, on va pas le tourner dans le Berry.
Tout à fait. Je vais rebondir sur votre question précédente juste avant, parce que pour moi, ce qui coûte le plus cher, c'est de s'y prendre trop tard. Et aujourd'hui, quand on inclut dès le début d'un projet, et celui dont vous parlez par exemple, la démarche éco-responsable, en fait, elle peut générer des profits, elle peut générer des opportunités financières extraordinaires.
Par exemple,
si on fait le film avec un enfant et un lion qui se tourne en Afrique par exemple, et qu'on se dit je veux le faire de façon éco-responsable, il est possible que des marques, aujourd'hui les marques sont très en recherche de valeurs, s'associer aux valeurs d'un film qui serait produit de façon durable et responsable, qui parle d'un enfant et d'un éléphant, ça pourrait être extraordinaire. Donc des marques pourraient être volontariste dans l'idée de financer ce film. Après, aller faire des recherches sur place pour voir justement tout ce que l'on peut faire sur place et ne réduire qu'au minimum ce qui va devoir venir de l'étranger, les transports de l'étranger, la part de, pour l'instant, non compressible. Et à partir de ce moment-là, savoir que cette part, il va falloir qu'on agisse derrière, qu'il y a des solutions pour agir derrière, financer des associations locales qui peuvent justement œuvrer pour la reforestation ou pour ce genre de choses. Donc réduire au maximum son impact écologique et son impact carbone, et ensuite agir derrière pour ce que l'on n'aura pas pu réduire en attendant que les innovations puissent éventuellement permettre de nouvelles solutions.
Il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres cas de figure, il y a la fiction, il y a le reportage, on continue de parler de tournage éco-responsable, on est avec Mathieu Delahousse et Julien Tricard, Culture Média continue.
Europe 1, Culture Bell.
Nous parlons d'éco-tournage, des tournages éco-responsables. C'est une tendance qui va être de plus en plus prégnante, et tant mieux. On en parle avec Mathieu Delahousse, le patron de Sequoia, Julien Tricard de Lucien Productions. Mathieu Delahousse, quels sont les tournages les plus concernés par ce souci écologique ? Ce sont des fictions, ce sont les documentaires ? C'est les deux, ou est-ce qu'il y a un domaine qui se dessine et...
Alors, il y a un domaine qui se dessine, qui tend vers la fiction, qui tend plus vers le film de cinéma, qui est un film unitaire et souvent, parfois, avec des équipes assez importantes. Donc, plus le film est gros, plus il va avoir un impact important. Le documentaire a, j'allais dire, quelque part, la chance d'être souvent des plus petites équipes, plus mobiles, donc avec des impacts moindres. Et la série peut avoir la force d'une récurrence et donc qui permet d'installer des démarches et des habitudes sur du long terme, ce que ne peut pas faire un long métrage. Donc, l'idée, c'est de pas dire que le long métrage pollue plus. En soi, c'est que la complexité de mise en œuvre d'un film qui se déplace beaucoup. On faisait référence à des films comme Astérix. Si on a besoin d'aller tourner à Malte, en Tunisie ou dans d'autres endroits, forcément le déplacement d'une équipe telle, la construction des décors, va entraîner une démarche beaucoup plus importante pour réussir à avoir une action éco-responsable, à entraîner la revalorisation des décors et ce genre de choses. Donc la complexité est plus importante pour le cinéma qu'elle peut l'être pour d'autres activités audiovisuelles.
Vous parlez d'Astérix, évidemment, les décors de désert, on peut les trouver que dans le désert par définition. Julien Tricard, le slogan de Lucien, qui est votre société de production, c'est celui-ci: fort impact sur les programmes, faible impact sur l'environnement. L'éco-tournage devient un argument de communication, on le voit par là. Est-ce que c'est également un argument commercial? Autrement dit, est-ce que les diffuseurs sont désormais sensibles à ce sujet?
Alors, je pense qu'ils vont amener à l'être, les diffuseurs, notamment parce que là, dans deux jours...
Ça veut dire qu'ils ne le sont pas encore?
Ils le sont. Alors si, et en plus, les gros diffuseurs aujourd'hui ont tous intégré une cellule RSE, responsabilité sociale et environnementale, dans leur structure. Ils sont très actifs et ils dialoguent énormément avec, avec tout le monde, y compris avec les producteurs, avec les syndicats, avec le CNC, qui est notre organisme de tutelle. Le CNC qui va dans deux jours faire des annonces qui, a priori, devraient être assez fracassantes pour tout le secteur, justement sur l'éco-responsabilisation du secteur.
On va venir aux annonces du CNC dans un instant. Les gros diffuseurs, qui sont-ils? Ce sont les chaînes, ce sont les sociétés de production, c'est qui?
Les gros diffuseurs, aujourd'hui, c'est les chaînes classiques, TF1, France Télévisions, Canal+, M6, mais c'est aussi aussi les plateformes, évidemment, Netflix, Amazon, Apple, Disney, Plus, etc.
Je vous cite, voilà ce qui est écrit sur le site internet de votre société. Lucien est une société d'audiovisuel. Difficile de ne pas faire figurer sur notre site quelques exemples des films que nous avons produits, ce qui consomme plus d'énergie qu'un site sans images animées. Lucien compense évidemment l'impact de ce parti pris. Fermons les guillemets, comment compensez-vous cet impact?
Alors ça, c'était un peu, on va dire, c'était un peu le monde d'avant déjà. C'est-à-dire que là, on va essayer de réduire les images. La compensation, en fait, c'est ce qu'on a mis en place, et c'est une réflexion qu'on a eue avec Mathieu, justement. On s'est dit, la compensation, ça peut être vu comme une façon de s'acheter un droit à polluer. En revanche, si on fait ce qu'on préconisait tout à l'heure, à savoir, on réfléchit d'abord et on réduit au maximum l'impact de nos productions, et on fait tout ce qu'on peut en amont pour réduire, une fois qu'on a fait ça, tout ce qui reste de pollution, à ce moment-là, on le compense. Donc la compensation, c'est investir, c'est acheter des tonnes de carbone, investir dans des projets éco-responsables, dans de la plantation de forêts, etc. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire avant. Sinon, c'est du greenwashing.
Ouais. Est-ce que l'argument écologique pourrait également convaincre les spectateurs, selon vous, Mathieu Delahousse? Je voulais même poser la question un peu différemment. Est-ce qu'on pourrait voir un jour des films avec un petit logo sur le film, sur l'affiche du film, qui indique qu'il a été éco-responsable lors de son tournage?
C'est notre souhait le plus cher et on y travaille ardemment chez Sequoia. Nous, on a déjà mis en place un outil qui s'appelle le Seco 2 qui permet au tournage, le Seco 2, excusez-moi, qui permet d'estimer en amont du projet l'impact carbone que le film devrait avoir sur des bases financières. C'est un outil qui a été fait sur les bases d'informations transmises par l'ADEME, l'Agence Nationale de l'Énergie, qui permet déjà au projet d'avoir une idée de son impact et de pouvoir le réduire. Après, la réalité aussi, c'est que, en effet, il y a des choses aujourd'hui incompressibles, et il est important de ne pas diaboliser le secteur, en effet, et de récompenser ceux qui font mieux. L'arrivée d'un label, par exemple, comme ça, permettrait justement de récompenser les films les plus vertueux et de montrer que c'est pas forcément un film qui a un sujet. Il faut qu'on dissocie aussi le film à impact, le film qui a un sujet, qui porte l'écologie, et le film qui s'est engagé dans sa fabrication. C'est deux versants différents, et c'est pas parce qu'on fait un film de cascade de voitures qu'on ne peut pas l'inclure dans une démarche environnementale et éco-responsable, même si, d'une première idée, ça peut paraître antinomique.
Oui, parce que sinon, Philippe Garrel va toujours l'emporter sur les blockbusters. La semaine qui commence aujourd'hui est une semaine importante pour l'écologie et l'audiovisuel. Des annonces sont attendues, notamment du CNC. Vous l'avez un peu évoqué, Julien Tricard. Que va annoncer le CNC de ce que vous en savez?
Alors, j'adorerais, dans le secret des dieux, d'ailleurs, si je l'étais, je pense qu'il ne me laisserait pas m'exprimer. Cela dit, on peut s'attendre à ce que... On va avoir des annonces qui vont ressembler à ce qui s'est fait il y a deux ans après la vague MeToo. Savoir que nous, les producteurs, on a été contraints d'assister à des séances de formation sur les violences sexistes et sexuelles au travail, avec des évaluations derrière, ce qui, au final, est très bien. Et là, en principe, on s'attend à voir, une fois encore, hein, je ne peux pas vous dire que c'est ça qui va se passer parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on s'attend à voir d'abord une première vague d'aide et de soutien à des initiatives qui sont justement qui vont dans le sens d'une labellisation, qui vont dans le sens d'un soutien aux actions et au tournage éco-responsable. Mmh. Et puis, peut-être une deuxième vague plus dans un second temps qui va être même plus contraignante, qui va être si vous faites pas des tournages éco-responsables,
on ne vous aide
plus
pas
assez aux aides.
Voilà, c'est très très important, l'aide du CNC en France pour le cinéma. Le CNC pourrait s'engager. Est-ce que d'autres organismes financeurs pourraient le faire également, de ce que vous en savez, par exemple les régions qui aident beaucoup le cinéma justement pour qu'on aille tourner chez eux? Chez elles, pardon.
C'est un peu ce que je disais au début du sujet, c'est toute l'économie de la production qui doit être repensée, les fonds...
Est-ce qu'elle va le faire? Ma question était, de ce que vous en savez, les régions vont conditionner les tournages au fait que ce soit éco-responsable?
Alors, les régions, il y en a qui le font déjà. Par exemple, l'Île-de-France a un éco-bonus qui a été mis en place il y a deux ans, d'abord sous forme expérimentale et qui est en train de vraiment bien affirmer son identité. La Corse le fait. Il y a d'autres régions qui sont en train de réfléchir ou de mettre en place un certain nombre d'actions et qui soutiennent des actions éco-responsables. Et en fait, aujourd'hui, les régions sont devenues un des acteurs essentiels dans le financement du cinéma et de la télévision. Ce qui fait d'ailleurs que quand vous, la question que vous posiez au début, c'est mais toutes les boîtes de prod sont à Paris. Alors, c'est pas vrai, il y a plein de boîtes de prod en France.
Non, j'ai dit beaucoup.
Et surtout,
j'ai pas dit toutes, j'ai dit beaucoup.
On va dire que la plupart des boîtes de prod sont à Paris quand même, c'est vrai. Ouais. Mais les tournages aujourd'hui sont vraiment éparpillés dans toute la France parce que les régions ont su s'imposer comme un acteur incontournable. Et les régions sont des acteurs qui vont participer à l'éco-responsabilisation.
Mathieu Delahousse, que dites-vous aux producteurs qui nous écoutent et qui commencent à prendre peur en disant « Ouh là là, on va encore nous imposer de nouvelles contraintes ». Que leur répondez-vous ?
Je leur dis ce qu'on leur dit depuis 3 ans, c'est-à-dire n'attendez pas que les choses vous soient imposées, prenez l'intérêt de ce qu'il y a à prendre. Aujourd'hui, l'éco-responsabilité, c'est une opportunité d'améliorer les qualités de production, d'améliorer l'économie d'un film et le financement d'un film. Sautez sur l'occasion.
Merci beaucoup, Mathieu Delahousse. Vous êtes le président de Sequoia, entreprise qui accompagne les sociétés de production à adopter des comportements plus verts. Et Julien Tricard, vous êtes producteur, Lucien Production, et vous êtes fondateur du Media Club Green. Merci d'avoir été avec nous en direct.